En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je ne sais pas si la dernière fois on avait vu la méditation avec la visualisation de l'océan agité.
Non.
Ça, on ne l'avait pas fait. Bah, je vous propose ça ce soir. Donc, en fait, on se met en posture comme d'habitude pour cette méditation. Et donc c'est une visualisation que propose souvent Mochok Rinpoche. Donc pour avant chaque visualisation, on commence par me donner de l'espace à l'esprit. Ça veut dire qu'on imagine autour de nous un paysage très vaste. Là, on donne beaucoup d'espace à l'esprit. Et dans cet espace, on imagine un océan agité, très agité, à perte de vue. Avec de grandes vagues qui couvrent l'horizon, un ciel très chargé, très sombre. Voilà, on peut imaginer, on peut y mettre tous les effets spéciaux qu'on veut, des éclairs, tempêtes, éléments. On imagine le son aussi. Et on prend voilà, beaucoup de liberté dans cette visualisation de façon à rendre ça vivant. Les éléments sont déchaînés. Et au sein de cet espace, au-dessus de l'océan, on visualise notre conscience. Alors soit sous la forme du Bouddha Shakyamuni, comme il est traditionnellement représenté, c'est-à-dire assis en posture de méditation, les yeux mi-clos, le regard bienveillant, souriant, et on le visualise sans substance, de couleur dorée, irradiant de lumière. Ou alors, si on préfère, si c'est plus simple, tout simplement, on visualise notre conscience sous la forme d'une sphère, une petite sphère dorée, irradiante de lumière et pareil, sans substance, comme un arc-en-ciel, au-dessus de cet océan agité. Et puis petit à petit, on imagine que les éléments s'apaisent, les vagues se font plus lentes, moins grandes, le ciel s'éclaircit progressivement. Toujours notre conscience au milieu de cet espace irradiant de lumière. Le ciel se dégage de plus en plus. La mer se fait de plus en plus calme. Jusqu'à devenir un lac lisse comme un miroir, à perte de vue. Tient cette image autant qu'on le souhaite. Si on sent que l'esprit est suffisamment stable, on peut laisser tomber la visualisation et rester dans cette expérience. Cette visualisation, elle peut être intéressante si vous êtes à l'aise avec ça. Là, en fait, c'est vrai que comme je la guide, bah, c'est moi qui impose le rythme. Mais ce qui est intéressant quand on la fait tout seul, c'est que si on a l'esprit agité, bah, on continue à visualiser l'océan agité, pas de problème. Ça vient surimposer sur l'agitation de l'esprit. Bah, on reste avec la visualisation des vagues. Et puis quand on sent que ça se calme, bah, on apaise aussi la visualisation de l'océan. Voilà, chacun fait ça à son rythme. Alors en fait, je crois que je suis. Non, c'est pas je crois, c'est. Je suis assez à la bourre sur le programme. C'est quelqu'un qui m'a dit ça dans les chilling. Je suis à la bourre sur le programme de Lojong. Mais bon, on s'en fiche, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui auraient aimé que d'ici à la fin de l'année, bah, on ait vu tout le texte, de façon à ce que, bah, à partir de septembre, on puisse peut-être entamer un nouveau. Donc je vais voir. Je vais voir, on verra. L'idée, c'est pas non plus de.
Ouais. On aime bien que tu répètes. Hein.
Oui, bah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait.
Comme avec Laurent, il est habitué à répéter.
De toute façon, c'est ça, hein. Sans allemand, c'est du rabâchage. Hein. On répète toujours la même chose, de toute façon. Alors, juste pour vous donner un aperçu, jusqu'à maintenant, depuis 7 ans, en fait, on a vu le premier. On a vu 2 points sur les 7 points de l'entraînement de l'esprit. Et j'ai, bah finalement, j'ai beaucoup développé le premier et le deuxième point, parce que voilà, c'est les points principaux. Mais après, ce qui est intéressant, donc voilà, pour vous donner une vision d'ensemble, le troisième point qu'on va voir ce soir, c'est comment maintenir la pratique dans la vie quotidienne. Le quatrième point, c'est l'application de la pratique dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire... Voilà, on dit le Lojong, c'est une pratique de toute une vie. Comment on applique le Lojong? Alors ça peut être dans la vie de tous les jours, mais dans tous ses aspects. Dormir, manger, mourir. Il y a aussi un powa du Lojong. Ce qu'on appelle un powa, c'est une méthode, voilà, c'est un, comment dire, une préparation au moment de la mort. On appelle ça un powa. Et il y a un powa de Lojong, une façon de mourir avec cette pratique. Et on dit que c'est une des manières les plus merveilleuses de mourir. Donc on en parlera, ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, ça va très vite en fait, c'est l'évaluation de l'entraînement de l'esprit. C'est tous les critères qui nous permettent de savoir est-ce qu'on pratique bien et quels sont les résultats voilà, qui peuvent nous permettre de dire que notre pratique est correcte. Donc ça va assez vite. Et puis le sixième... Et le septième point, grosso modo, c'est des petits préceptes. C'est une sorte de guide, de feuille de route. Ouais, des petits. Voilà, il y a des choses comme ne parle pas des défauts d'autrui. N'insiste pas sur les défauts d'autrui. Voilà, c'est des petites phrases comme ça qui nous permettent de savoir est-ce qu'on est toujours dans la pratique ou pas. Et c'est intéressant ces petits préceptes-là parce qu'on se rend compte que ça va très très vite en fait dans la vie de tous les jours. Il y avait quelqu'un qui me disait bah ouais, surtout dans le milieu du travail.
C'est-à-dire qu'il faut que tu en fasses 3 par séance, quoi.
Oh bah ça on verra. Ça en principe.
Tu dis qu'il y a 6 points.
Oui, ça c'est le 6 et 7e point. Mais en fait ça va très vite cela parce que c'est juste des. C'est juste des préceptes, en fait, il n'y a pas besoin forcément de commentaires quand on dit, quand on lit ne pas...
Il n'y a plus que « mais » et « je ».
Oui, bah oui, c'est pour ça, hein, je dis, En fait, je ne sais pas si ce sera nécessaire de développer ça. D'ailleurs, ça, c'est des trucs que vous pouvez lire, et puis voilà, ne parle pas des défauts d'autrui. Voilà, il n'y a pas nécessairement besoin d'un commentaire. Mais c'est intéressant quand même que vous les lisiez. Parce que moi, je trouve que, voilà, c'est des choses que j'ai gardées à l'esprit. Mine de rien, on se rend compte que pour ne pas rentrer là-dedans, bah quelque part, il faut une sacrée vigilance. Parce que, voilà, parler des défauts d'autrui, ça va très très vite. C'est quelqu'un qui raconte une blague un peu limite, et puis on rigole, bah quelque part, on cautionne ça. On est déjà dedans, quoi. Ouais, il y a plein de... Je trouve qu'il y a plein d'outils pratiques. Ne te prête pas aux mauvaises plaisanteries. Ne te tiens pas en embuscade. Je l'aime bien celui-là. C'est n'attends pas l'occasion de te venger. Je sais pas. L'idée, c'est que bah un jour, voilà, il y a quelqu'un qui a appuyé là où ça fait mal. Puis on dit rien sur le coup, mais quelque part, il y a une sorte de rancœur qui reste. Et puis on peut attendre le moment où la personne est en situation de faiblesse et puis l'envie Voilà, ce précepte-là est en train de nous rappeler que là, on n'est plus dans la pratique. Il faut être vigilant. Ne fais pas porter la charge du bœuf à la vache.
Ça dit quoi, ça, là ?
Ça veut dire, en gros, quand on a une responsabilité, essayer de la refiler à quelqu'un d'autre. Voilà, pour... Voilà, ça, c'est pas une attitude de bodhisattva. Enfin, vous verrez, quoi, c'est des trucs qui parlent d'eux-mêmes. N'attends pas de grands merci. Voilà, des choses comme ça. Ils sont très intéressants parce qu'on se rend compte que si on veut les mettre en application, ça demande de l'entraînement. Ça demande, voilà, de la vigilance. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Voilà, c'est vraiment très simple, mais c'est très intéressant. Donc là, on est dans le troisième point. Maintenir la pratique dans la vie quotidienne. Donc vous allez voir, il est costaud. Il est très profond. Maintenir la pratique dans la vie quotidienne, c'est-à-dire transformer l'adversité en voie d'éveil. On en a déjà parlé, hein. Le premier précepte, c'est transforme les circonstances adverses en voie d'éveil. En fait, c'est le précepte générique, celui-là. C'est le précepte générique au troisième point. C'est transforme toutes les circonstances adverses en voie d'éveil, et puis ensuite on détaille dans des applications plus précises. Mais ce que ça dit, ce précepte-là, ça veut dire que même si on ne voit pas trop comment, c'est de se familiariser avec l'idée que quand on rencontre quelque chose de pénible, quelque chose de défavorable, une situation adverse, s'entraîner à la considérer non pas comme un obstacle, mais comme quelque chose dont on peut tirer parti. C'est une gymnastique. C'est pas habituel. En fait, quand on rencontre quelque chose de défavorable, ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser, esquiver, détruire, etc. Là, pour celui qui pratique le Lojong, pour celui qui a reçu les instructions du Lojong et qui les comprend, il est question d'adopter ce point de vue. Quand on rencontre l'adversité, une situation défavorable ou quelqu'un qui nous cause du tort, considérer que ce n'est pas un obstacle. Même si on ne voit pas encore comment gérer, c'est se familiariser avec cette idée-là. Tout simplement. Rien que ça, ne serait-ce que d'avoir la pensée, de se dire « c'est pas un obstacle, je peux en tirer parti », ça suffit pour qu'il y ait une transformation. D'ailleurs, voilà, on change notre rapport à la situation. Et puis après, peut-être qu'on n'a pas encore l'entraînement nécessaire ou les capacités de gérer la situation. Mais on se familiarise avec cette idée-là. Du point de vue de l'entraînement de l'esprit, du point de vue du Lojong, les circonstances adverses ne sont pas un obstacle à l'éveil. C'est même une opportunité. Chaque crise est une opportunité. Voilà, on se familiarise avec cette idée-là. Et ensuite, les préceptes suivants, on rentre un peu dans le détail. Là, Ringo Rinpoche dit « En appréhendant chaque chose comme une opportunité d'entraîner l'esprit, nous donnons un but réel et un sens à nos vies. » Ensuite, le précepte suivant, c'est « Ramène à toi tous les blâmes ». Parfois, c'est traduit par « Ramène tous les blâmes à une seule chose ». Et cette chose, c'est l'ego. Ça, c'est un précepte qui est très important du point de vue, pas seulement de l'entraînement de l'esprit, hein, du point de vue bouddhiste en général. La source de tous nos problèmes, la source de toutes nos souffrances, toutes les contrariétés qu'on a pu rencontrer, au lieu de considérer que c'est l'extérieur, que c'est l'autre, considérer que le seul responsable de tous nos tourments, c'est l'ego. C'est le fait de se chérir le soi, chérir l'ego. Et de voir que... De s'efforcer, en fait, de servir tous les intérêts de l'ego. Et que malgré toute l'énergie considérable qu'on a déployée pour répondre à toutes ces attentes, on a récolté au bout du compte que des problèmes. Ça, c'est vraiment la réflexion « ramène à toi tous les blâmes ». C'est une habitude. Du point de vue de la voix, en fait, il ne s'agit pas de détruire l'ego. Du point de vue de la voix, il ne s'agit pas de détruire l'ego parce que l'ego est une croyance. C'est un concept qu'on a fabriqué. C'est ça le message. C'est de voir que on ne connaît que ce mode de fonctionnement, qui est le mode de fonctionnement duel, sujet-objet. On n'en connaît pas d'autres et on est très habitué à ce mode de fonctionnement et de voir que ce mode de fonctionnement, au bout du compte, nous a causé que des problèmes. Tout change tout le temps. Rien n'est stable. Et c'est pas rassurant, en fait. Dans le mode de fonctionnement égocentrique, ça consiste en quoi ? À considérer que nous sommes le centre du monde. Le moi est considéré comme le point de référence, le centre du monde autour duquel tournent les autres, l'extérieur, etc. Et que on est habitué à penser que pour être heureux, il faut répondre à toutes ces attentes, toujours sans référer à ce moi. Quand quelque chose apparaît, c'est que ce soit une pensée, une situation, tout ce qui apparaît est filtré à travers cette conception d'un moi qui est plus important que tout le reste. Et quand quelque chose apparaît, on se demande, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est mauvais pour moi? Si ça paraît effrayant, on se sent menacé. Et donc du coup, la réaction, ça va être d'esquiver ou de détruire, etc. Quand quelque chose de positif arrive, l'idée c'est, voilà, c'est bon pour moi, il me le faut absolument, je m'y attache, ça devient une obsession, et quand je l'ai, je m'inquiète de le perdre. La manifestation égocentrique, en fait, nous rend sans arrêt malheureux, elle n'est jamais comblée, parce que tout change tout le temps. Rien ne peut répondre vraiment à nos attentes, et donc on est sans arrêt soulagé, inquiet. Et on est en train de filtrer notre expérience tout le temps, sans arrêt, on est aux aguets, à l'affût de « attention, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi ?» etc. Et ça n'en finit jamais. Et dans cette façon de fonctionner, c'est là qu'apparaissent ce qu'on appelle les poisons de l'esprit. L'ignorance, c'est cette façon de fonctionner. C'est cette croyance en un moi qui est le centre de l'existence, séparé du reste. Et ça se manifeste par les autres poisons de l'esprit qu'on appelle l'aversion et l'attachement. Quand quelqu'un se met en colère contre nous, quand quelqu'un nous traite mal, nous insulte, on se sent blessé, on se sent humilié, on souffre. Au contraire, quand quelqu'un nous parle bien, quand quelqu'un est gentil avec nous, cette situation me fait me sentir bien, cette personne me fait me sentir bien, donc je m'y attache, donc j'ai besoin de ça pour être heureux. Quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un a des qualités, quand quelqu'un accomplit des choses positives, jouit d'une bonne situation, au lieu de se réjouir pour cette personne, le fait d'être centré sur moi, au contraire, on essaye de rabaisser cette personne, on devient jaloux, on lui envie son bonheur, on essaye de la rabaisser ou de se comparer, etc. Voilà, c'est toujours dû à cette attitude égocentrique. Et de comprendre qu'en fait, on ne peut jamais larguer les amarres. La voie bouddhiste, en fait, nous invite, au bout du compte, si on arrive à se rendre compte que la source de tous nos problèmes, c'est ça, le fait de scinder l'expérience, de polariser l'expérience entre moi et les autres, ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi, on maintient toujours quelque chose, on maintient une inquiétude, et on ne sera jamais tranquille. Et c'est une invitation à larguer les amarres, c'est-à-dire à laisser tomber tout ça, pour se rendre compte que si on largue les amarres, en fait, du point de vue de l'ego, il ne faut pas faire ça, parce que sinon on va se sentir perdu. Du point de vue de la voie bouddhiste, c'est de comprendre qu'on est déjà perdu, et que dans ce mode de fonctionnement, on n'en finira pas de souffrir. On n'aura jamais de répit. Et l'idée, c'est de nous inviter à larguer les amarres, à être sans... À fonctionner sans s'en référer toujours à l'ego. Quand il y a une expérience qui apparaît, sans arrêt revenir à l'ego. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Toujours filtré pour s'ouvrir à ce qui se passe, sans point de référence, et se voir que finalement, si on lâche les amarres, loin d'être perdu, en fait, on se rend compte qu'on flotte. C'est un peu, on se jette à l'eau, et puis, on a les instructions, etc., et on se rend compte que ça va. on flotte. Et en fait, même on se sent beaucoup plus léger. On peut fonctionner sans ce référentiel qui nous pourrit la vie. Voilà, on s'ouvre à l'expérience telle qu'elle est. Et ça, les maîtres, enfin voilà, dans les textes traditionnels, ils sont sans pitié. Quand on revient voilà, à Shantideva ou Jamgon contre le Rinpoché dans la chimie, souvent, l'ennemi numéro un, c'est vraiment, voilà, quand on comprend que l'ennemi numéro un, c'est cette croyance en l'ego, les termes qu'ils emploient, c'est vraiment maintenant que je t'ai démasqué, mais je n'aurai de cesse de te combattre. Attitude égocentrique qui m'a pourri, parce qu'on dit, c'est ce qui nous a pourri depuis des temps sans commencement. Cette ignorance, on ne sait pas depuis quand elle est là. Du point de vue bouddhiste, on considère qu'elle est là depuis des temps sans commencement. D'où le concept peut-être de vie antérieure. C'est pas là depuis hier. C'est pas là depuis cette vie. C'est peut-être là même depuis très très longtemps. Et c'est ça qui nous a maintenus dans le samsara depuis des temps sans commencement. C'est un peu, voilà, on ne sait pas depuis quand. C'est un peu l'idée du péché originel chez les chrétiens. C'est interprétation libre. Mais l'idée du péché originel, c'est à un moment donné, Adam et Ève sont au paradis. Et puis en gros, jouissez du paradis. Dieu leur dit, jouissez du paradis et taisez-vous. Jouissez, sans vous poser plus de questions que ça. Et par contre, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Le péché originel, voilà, c'est un peu comme ça que j'aime bien le traduire, mais ça c'est très libre. Mais chez les bouddhistes c'est pareil, on ne sait pas depuis quand c'est arrivé, et quelque part on ne se pose pas la question, c'est depuis des temps sans commencement. C'est comme si on nous posait la question, voilà, est-ce que vous savez parler le chinois? Puis on répond non, depuis quand vous ne savez pas parler le chinois? Vous voyez, on ne peut pas... Et on ne va pas se poser la question depuis quand il y a ce bug, en fait. Il y a ce bug, ce fonctionnement erroné. Et qui se perpétue. Le seul mode de fonctionnement qu'on connaît, c'est le mode de fonctionnement duel sujet-objet. Et en plus, le fait de chérir le moi. Considérer que répondre à toutes les attentes du moi, c'est comme ça qu'on va être heureux. Et finalement, on n'en finit jamais. Et moi, j'aime bien cette idée de bug. C'est qu'est-ce qui se perpétue quand on parle de vie, de vie successive, de tourner dans le samsara encore et encore. Qu'est-ce qui se perpétue? C'est ce bug. C'est cette conception erronée qui nous fait souffrir. C'est un peu, il y a un fichier qui est infecté d'un virus. Si on le copie, on copie le virus avec. Et donc, on peut le copier... 100 fois, 1000 fois, il y aura toujours le même bug. Comprendre que c'est ce bug qu'on cherche à corriger. Comprendre que c'est la source de tous nos problèmes. Ouais.
Du coup, je me posais la question, le bouddhisme, mais c'est complètement incompatible avec la psychothérapie et la psychanalyse?
Non. Non, non.
Vu ce que vous dites, on a l'impression que c'est...
Comment?
Ça donne cette impression, en fait, que c'est du coup complètement... c'est impossible de... puisque la psychanalyse, on travaille forcément, et la psychothérapie, sur son moi, sur son ego.
Ouais, mais en fait, ce qu'il faut... la conception erronée, c'est qu'on nie pas qu'on est une personne. Ce qu'on remet en question, c'est l'idée d'un moi séparé du reste. D'un moi qui fonctionnerait comme une entité. Ce que le bouddhisme réfute, c'est l'idée d'identité. C'est-à-dire, quand on dit identité, une entité qui serait identique à chaque instant. On considère très grossièrement que le moi, c'est à chaque instant, on est la même personne. Et une personne qui serait... C'est l'idée d'âme qu'on remet en question. On est une personne... Ça, on ne le remet pas en question. Mais ce qu'on remet en question, c'est le côté identitaire. C'est, pour prendre un exemple, On peut très bien, voilà, si on est instituteur par exemple, si on est un instituteur en face de notre classe, on est dans cette parenthèse-là, on est dans notre rôle d'instit. Quelques heures plus tard, on va faire notre jogging. On n'a plus besoin de cette identité d'instituteur. Cette casquette d'instit, on la laisse de côté. Elle marche dans une parenthèse donnée. Quand on est en train de faire notre jogging, quelques heures plus tard, on a le mec qui fait son jogging. On n'a pas besoin de se dire « qui suis-je ? Je suis l'instit, je suis ceci, je suis cela, je suis juste le mec en train de faire son jogging. » Et puis quelques heures plus tard, on est en face de nos enfants, on est dans notre rôle de père de famille. Mais ce rôle de père de famille, il dépend de la parenthèse, il dépend de, voilà, on ne la trimballe pas à chaque instant, cette identité de père de famille. On est père de famille parce qu'on a des enfants. Quand je suis en train de faire mon jogging, est-ce que j'ai besoin de me rappeler je suis un tel père de famille, etc. Et puis, ne serait-ce que notre prénom, on est très identifié à notre prénom, mais est-ce que ça suffit à nous définir ? Mon prénom, par exemple, si je m'appelle Jacques, j'essaie pas de convaincre, hein. J'essaie juste de donner des pistes. Voilà, on est très identifié à notre prénom. Mais si par exemple quelqu'un nous demande « Qui es-tu ?» et que je réponds « Bah voilà, je suis Jacques. » On se comprend, c'est une désignation, c'est le prénom donné par mes parents. Par exemple, je suis Jacques. Mais est-ce que ça suffit à me définir ? C'est juste un prénom. Mais Jacques, il n'est pas seulement ça. Jacques, il peut être instit ou il peut être boulanger. Ça, c'est... Voilà, on peut se raconter par ce qu'on fait dans la vie. Je suis Jacques, instit, je suis Jacques Boulanger. Mais là encore, ça suffit pas à me définir. Si je cherchais vraiment à me définir, en tant que justement entité, je serais bien emmerdé, parce que Jacques, c'est plein de choses. Ça peut être ce que je fais dans la vie, ça peut être mon prénom, ça peut être mon histoire, ça peut être mes souvenirs, ça peut être ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je suis Jacques, j'aime... les pizzas, j'aime pas la soupe de brocoli.
Facebook, quoi.
Comment ?
Identité Facebook. Okay,
voilà. J'ai tant de likes. Si vraiment j'essayais de me définir, je serais confronté à un problème. Ce problème, c'est que ce que nous sommes est indéfinissable. Ça marche toujours que dans une parenthèse donnée. Si je dis « je suis Jacques, je suis père de famille », c'est vrai. Mais c'est vrai à un niveau relatif. Ça ne suffit pas à me définir. Et c'est ça qu'on entend quand on dit que l'ego, en tant qu'entité autonome, permanente, qui existerait à chaque instant, c'est à ça qu'on croit. Et c'est cette croyance qui nous pose problème. Et l'idée, c'est de voir que si on se débarrasse de cette croyance, ça ne nous empêche pas de fonctionner. Dans ce contexte-là, je suis Orgyen dans ma fonction de moine bouddhiste qui enseigne le bouddhisme. Quelque part, j'ai pas besoin de me le rappeler à chaque instant. Pour fonctionner au bout d'un moment, j'abandonne cette étiquette. J'ai pas besoin de me rappeler, attention, qui suis-je, qui vous êtes, etc. La situation me donne tous les éléments dont j'ai besoin pour rentrer en relation avec cette situation. Oui.
Est-ce que le dharma définit la personne, le mot la personne ? Tu as dit, nous croyons en un ego, nous ne sommes pas un soi. Nous sommes juste une personne.
Oui, dans le sens où on pourrait croire que si on déracine la croyance en l'ego, on fusionne dans un grand tout. Et ça, c'est pas l'idée bouddhiste. On parle de flux de conscience individuelle, de continuum de conscience individuelle. Si on a chacun notre continuum de conscience, dans ce même espace-temps, on partage le même moment, le même instant. Pourtant, là où moi, peut-être, je peux porter mon attention, je peux percevoir les bruits de la circulation, quelqu'un d'autre en face ne se porte pas là-dessus, il va se porter sur l'éclairage ou ce que je suis en train de dire. Et voilà, on a un continuum de conscience qui nous est propre. une expérience qui nous est propre, parce que notre conscience va faire des allers-retours, mais se poser sur des choses là où quelqu'un d'autre va se poser sur autre chose. Vous voyez, on n'est pas dans une sorte de grand tout, on ne fusionne pas dans un grand tout. Mais l'idée, c'est de ne pas cristalliser ce que nous sommes comme étant quelque chose de d'identique à chaque instant, ce qu'on appelle l'identité. C'est ça qu'affirme le bouddhisme. L'identité est une croyance qui non seulement n'est pas en adéquation avec la réalité, mais en plus nous pose beaucoup de problèmes. J'avais un copain un jour qui, dans notre bande de potes, c'était le gars qui assure. Voilà. Le mec, il assure sur tous les plans, voilà, et puis c'était un peu le... Et puis quelque part, il se confortait dans ce rôle-là, dans cette personnalité. Voilà, j'assure sur tous les plans. Et puis un jour, sa copine est partie. Et ça a été un bouleversement pour lui, parce que il y a quelque chose qui lui échappait. Il n'arrêtait pas de nous dire, mais où est-ce que j'ai merdé? À quel moment j'ai perdu le contrôle? Vous savez, comme si l'amour, c'était quelque chose qui est de l'ordre du contrôle. Je gère, j'assure. Et à un moment donné, je contrôle. Et là, en fait, ça lui a complètement échappé. Et il était ravagé, vraiment. Et nous, on n'était pas dupes. On lui disait, mais attends, arrête. Bah oui, c'est normal, voilà, il est parti, c'est comme ça. Laisse tomber. Il se raccrochait, il se cramponnait à cette image de le mec qui assure, qui contrôle, je fais comme si de rien n'était. Non, non, c'est bon, elle va revenir, etc. Et il n'était pas prêt à entendre. Et ça lui a pris du temps. Et nous, ses amis, on ne pouvait pas lui dire. Enfin, il y a un moment donné où il y a une limite, c'est si la personne ne veut pas le comprendre, elle doit faire son chemin. Mais comprendre que le fait de s'agripper à une entité, voilà, je suis quelqu'un qui assure, je suis quelqu'un qui gère, on va se confronter à un mur. Et c'est un peu cette idée-là. Que ce que nous sommes, c'est un... D'abord, on est en interdépendance, tout le temps. On est un système qui est sans arrêt en interdépendance, et donc nous avons des répercussions sur les autres, et les autres, l'extérieur, a des répercussions sur nous. Si à un moment donné, on se met à penser comme ça, on a telle opinion sur quelque chose, ces opinions ne sont pas figées. On peut le voir dans notre vie, en disant qu'il y a des choses qui ont changé, des traits de caractère qui ont changé, des opinions qui ont changé, tout simplement parce qu'on a rencontré une personne ou on a lu quelque chose qui nous a influencé, et puis ça a fait évoluer notre façon de penser, et on dit, voilà, c'est ma façon de penser. Mais en fait, ma façon de penser, c'est la façon de penser de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est cette idée-là. De voir que... chérir le moi, le mettre lui donner trop d'importance, ça nous pose problème. Ça ne peut que nous poser des problèmes. Alors, il y a un exercice qui est assez intéressant que propose Bhikkhu Rinpoche. C'est de prendre conscience de l'égalité de tous les êtres humains, par exemple. Je suis un être humain, l'autre est un être humain en face de moi. Il y a une égalité à ce moment-là. Je souhaite le bonheur, mais l'autre en face souhaite le bonheur aussi, il y a une égalité. Donc en quoi suis-je plus légitime à être heureux que cette personne? Voilà, on repasse les choses dans cette perspective-là, et ça nous fait prendre conscience que parfois notre réponse aux situations est un peu démesurée ou distordue. Elle n'est pas équanime à ce moment-là. On le fait aussi avec nos proches, parce que dans l'attitude égocentrique, on donne beaucoup d'importance à ce qu'on appelle « nos proches ». Et on trouve que c'est tout à fait légitime que nos proches soient heureux, qu'ils soient libres de la souffrance. C'est très important, et pourtant, pour ceux qui ne sont pas nos proches, qui ne font pas partie de notre sphère, de notre entourage, on est beaucoup plus indifférent. Et voilà, pareil, nos proches, on prend en considération nos proches, voir que c'est légitime qu'ils soient heureux, c'est légitime qu'ils ne souffrent pas, c'est important qu'ils soient heureux, c'est important qu'ils ne souffrent pas. Pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres ne seraient pas plus légitimes que ça? Voilà, replacer ça dans cette perspective-là.
À propos justement des proches et notamment par exemple de ses propres enfants, comment gérer ça? Est-ce que l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, qu'on peut voir comme même plus important que soi-même, donc ce qui leur arrive, nous toucher même presque plus que ce qui nous touche nous-mêmes, est-ce que c'est parce que c'est notre ego, parce qu'on les aime, qui est touché, donc il faut d'une certaine manière remettre ça en question, ce qui est difficile, ou alors au contraire dire c'est mon ego qui s'est étendu à eux, et l'idée c'est de l'étendre au-delà.
C'est ça. L'idée c'est pas d'aimer moins nos proches, c'est de voir, au contraire, c'est s'inspirer de l'amour qu'on a pour nos proches, de l'attention qu'on est capable de déployer, et de l'étendre en fait. De voir, mais est-ce que je suis capable de faire ça avec quelqu'un, voilà, avec qui je me sens moins proche, voilà, un voisin ou un ami, etc. Et puis ensuite, on va étendre. L'idée, c'est de s'inspirer de l'amour qu'on a trop proche et se dire, mais pourquoi je le réserve qu'à ces personnes-là? Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de l'étendre? Si je suis capable de le faire pour cette personne-là, a priori, je suis capable de l'étendre. Et c'est de alors, on n'est pas... c'est comme on est en chemin, au début, on ne fait que le constater. On est incapable. On ne se sent pas capable de faire la même chose pour quelqu'un qu'on ne connaît pas ou un collègue de boulot. Mais cette réflexion nous amène à nous dire, mais pourquoi? Pourquoi? Puisque cette personne mérite autant le bonheur que mes proches, que mon fils, que après tout. Puisque on est humain. On est, de ce point de vue, on est égalité. Et donc, c'est le fait d'avoir cette vigilance-là, d'avoir cette prise de conscience-là, bah, ça va nous interpeller. Et ensuite, nous permettre, bah oui, l'objectif, c'est qu'on puisse étendre ça. Cet amour, on puisse le rendre universel. Alors après, il y a... Rinpoche dit, quand on dit aimer tous les êtres, c'est pas dans le sens où on est capable de les aimer tous de la même façon. Déjà, ne pas haïr les êtres, c'est déjà une preuve d'amour. Quand on dit aimer les êtres, ça veut pas dire voilà, je t'adore, je veux passer autant de temps avec toi qu'avec n'importe qui, etc. C'est pas ça. On n'aime pas tous les êtres de la même façon. Les moustiques, par exemple, voilà, quand on étend l'amour à tous les êtres, on pourrait se dire bah voilà, bon, les moustiques, voilà, c'est difficile d'aimer un moustique, mais malgré tout. Même si on est, même si c'est difficile d'aimer les moustiques ou les mouches ou les gens qui nous posent des terres, on peut admettre qu'ils ont le droit d'exister. Et on peut déjà ne pas les haïr, ne pas les détester. C'est déjà, ça fait partie de l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas l'affect qu'on met dans le mot occidental amour. C'est le fait de souhaiter le bonheur de l'autre. Même si, bah voilà, on n'a pas d'atome crochu, etc., ça ne nous empêche pas de souhaiter que l'autre soit heureux, en tout cas. Mais effectivement, on ne va pas aimer les êtres de la même façon. On ne peut pas aimer nos enfants de cette façon-là. Enfin voilà, on ne peut pas aimer n'importe qui de la même façon qu'on aime nos enfants ou notre conjoint, notre conjointe, etc. Mais de considérer qu'ils ont le même droit, ils ont la même légitimité à être heureux.
Et pour un être éveillé?
Et pour un être éveillé, c'est pareil. Oui, bien sûr. Un être éveillé, il a la même qualité d'attention et d'amour pour les autres, mais il ne les aime pas de la même façon, c'est-à-dire la même intensité, la même qualité. Mais pour prendre un exemple, si on aime les pizzas et que on n'aime pas la soupe de brocoli. J'aime bien cet exemple, je sais pas pourquoi.
Je te dirai à la fin.
On continue d'avoir des affinités. C'est-à-dire, on continue de préférer la pizza à la soupe de brocoli. Ça change pas. On continue d'avoir des atomes crochus, des affinités plus avec telle personne qu'avec telle personne. Mais n'empêche que on souhaite, en tout cas, à ces deux personnes-là, d'être heureux. D'être aussi heureux l'un que l'autre. Enfin, pas d'être aussi, mais d'être autant, d'atteindre le plus haut degré de bonheur. Chacun a la même légitimité.
Non, pas du tout. Du coup, surtout le respect pour tous, en fait. Pour moi, c'est...
Oui, c'est justement, c'est le précepte suivant. D'accord. On va en parler, voilà. Le précepte suivant, c'est « Médite sur la grande bonté de tous. Sois reconnaissant envers tous. » « Sois reconnaissant envers tous », c'est un précepte qui nous invite à, effectivement, on peut avoir beaucoup de gratitude pour les Bouddhas, pour les Bodhisattvas, pour les maîtres qui nous ont inspirés, pour toutes les sources d'inspiration qu'on a dans ce monde. Ça peut être, je sais pas moi, le Bouddha, le Dalai Lama, Jésus-Christ, enfin voilà, Gandhi, enfin voilà, tous les personnages qui peut-être nous inspirent, etc., et puis qui ont apporté beaucoup par leur message de paix à l'humanité. Et de manière plus profonde, on considère que on doit le même hommage au Bouddha et au Bodhisattva qu'aux êtres ordinaires, parce que sans les êtres ordinaires, l'éveil ne serait pas possible. On a besoin des autres pour pouvoir s'éveiller. C'est l'autre qui va nous permettre de travailler sur notre esprit, qui va refléter nos fonctionnements, nos problèmes, etc., pour nous permettre de nous éveiller, et particulièrement les personnes qui nous causent du tort. On dit qu'on doit témoigner du respect envers les personnes qui nous causent du tort. Considérer que ces personnes sont précieuses. Il est exigeant, hein, ce précepte-là. Considérer que c'est grâce à ces personnes-là que on va être obligé de puiser dans nos ressources pour justement apprendre où est-ce qu'on doit travailler. Atisha disait que même quand il était très avancé dans la voie, il disait qu'il n'était pas à même de voir où est-ce qu'il en était dans le chemin, qu'est-ce qui lui restait à travailler, où est-ce que sa confusion se nichait, et que le seul moyen qu'il avait de le voir, c'est quand il rencontrait une situation adverse ou quelqu'un qui venait l'ennuyer. C'est là qu'il voyait ce qui lui restait, où est-ce qu'il devait travailler. Et quand il a été invité à solliciter pour aller transmettre le dharma au Tibet, il se disait que les Tibétains, c'était un peuple civilisé, plutôt doux, etc., qu'il n'aurait pas trop de problèmes. Donc il s'est dit, il a emmené avec lui un assistant abominable, vraiment le pire de ses étudiants, vraiment celui qui était le pire caractère, une plaie. Et ses étudiants lui demandaient, enfin je veux dire, parmi tous les étudiants que vous avez, c'est là, il y en a des bien plus agréables que lui, pourquoi lui, quoi ? Qui voit tout en noir, qui trouve toujours tout à critiquer, etc. Pourquoi lui ? Il disait, c'est mon testeur de patience. Bon. Alors, les Tibétains se plaisent à dire que quand il arrive au Tibet, il est un peu déchanté. Ils se disent, s'il avait su, il n'aurait pas eu besoin d'emmener cet assistant, parce que les Tibétains avaient un caractère bien rude, donc ils se plaisent à dire qu'il n'avait pas besoin de ça. Mais ça en dit long. Et c'est vrai que les bodhisattvas, on insiste beaucoup là-dessus dans les textes. Plus on avance sur le chemin, plus les conditions qui viennent nous faire travailler se font rares. D'abord, il peut y avoir le karma positif qu'on a développé, et donc qui fait qu'on bénéficie de circonstances favorables. Il y a le fait qu'on a un entraînement, un bodhisattva avancé a un entraînement qui fait que une situation pénible pour un être ordinaire, pour un bodhisattva avancé sur le chemin, ça passe comme couteau sur un canard, je ne sais plus comment on dit, enfin on s'est compris quoi, ça glisse. Et Et que donc le danger de bénéficier de circonstances justement trop agréables, c'est qu'on sombre dans l'indolence. Il n'y a rien qui vient nous faire travailler et on risque de s'asseoir sur les lauriers. Et ça, on considère que c'est un obstacle dangereux et très sournois de s'asseoir sur ses lauriers. On ne pratique plus sur son esprit. On dit, l'obstacle qui guette les lamas ou les monastères qui ont une trop bonne réputation, qui jouissent de trop bonne réputation, donc les offrandes, plein de situations favorables. Mais du coup, on ne pratique plus, il n'y a plus rien qui vient nous pousser à pratiquer. Plus rien qui vient nous pousser à avancer parce que tout va bien, quoi. Et considérer que quand on rencontre quelqu'un qui vient nous causer du tort ou qui vient appuyer sur ça, se familiariser avec l'idée qu'il est précieux, que c'est grâce à lui, c'est une invitation à voir qu'on est encore en chemin, qu'il nous faut trouver des ressources dans le dharma, qu'il nous faut trouver des ressources dans notre pratique, travailler sur notre esprit. Alors il y a une nonne, Pema Chodron, je ne sais pas si vous connaissez, une nonne américaine, qui a écrit un bouquin, justement un commentaire du Lojong, et elle raconte que elle suit un séminaire avec un certain Gorgiev. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un maître spirituel, Gorgiev. Ouais.
Gorgiev. Au début du...
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, Gorgiev, il avait la réputation, en fait, d'emmener ses étudiants dans des situations très inconfortables. C'est-à-dire, si on est dans notre zone de confort, il avait l'art de... quelqu'un qui se sentait bien dans l'enseignement ou bon orateur, il se débrouillait pour le faire vendre des voitures sur le parking d'un supermarché, des choses comme ça. Et puis il avait aussi la réputation de faire des trucs absurdes à ses étudiants pour pousser dans leur résistance. Et donc Pema Chodron parle de... Elle a une théorie. Elle dit on a chacun son Juan. Son Juan. C'est un prénom parce que bon, j'imagine que ça se passe en Amérique latine. Donc c'est comme si je disais on a chacun notre... on a chacun un con. On a chacun un con dans notre vie, c'est-à-dire j'adhère complètement à cette théorie. Hein. On a chacun un con, c'est-à-dire quelqu'un qui vient nous emmener dans une situation qu'on n'aime pas du tout, et que si on a beau peut-être prendre de la distance, on peut déménager à des milliers de kilomètres, il revient. Il a changé de nom, il a plus la même tête, mais c'est encore lui. Et il nous remet exactement dans cette même situation. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas fait face à ce problème jusqu'au bout, on va le retrouver encore et encore. Et elle est dit, on a tous notre Juan. Et là, en plus, dans cette retraite-là, elle dit, il y en avait un, justement, qui s'appelait Juan. Et non seulement c'était son Juan, mais c'était le Juan de tout le monde. C'est-à-dire, c'est vraiment celui... Tout le monde s'accordait à dire, celui-là, il est vraiment... Il en tient une couche vraiment chargée, quoi. Et elle dit, tout le monde, à chaque fois que Juan était dans la pièce, tout le monde marche sur des œufs, quoi, sur la pointe des pieds, parce que le moindre mot de travers, susceptibilité à fleur de peau, était prêt à partir au quart de tour dès qu'il y avait quelqu'un qui disait un mot de travers. Donc, Et puis, donc, Gorgiev, toujours dans ses exercices... un peu farfelu, il demande donc à une quarantaine de personnes d'aller découper la pelouse en petits morceaux et de l'emmener d'un point A à un point B, quoi. Et là, Juan, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il pète un câble et donc il se barre de la retraite en claquant la porte comme un ouragan, etc. Et donc tout le monde, yes, super, soulagement absolu. Tout le monde sautille partout, on fait la fête. Et il y a quand même quelqu'un qui rapporte l'histoire à Gorgiev. Et là, Gorgiev, etc. Il prend sa bagnole et puis il va chercher le Juan en question. Et trois jours après, il revient avec Juan. Donc les gens un peu intrigués, etc. Et son assistant lui demande, il lui sert le thé et puis lui dit, je peux vous poser une question, pourquoi vous l'avez ramené, quoi ? Et donc Gorgiev lui répond, bon, ça reste entre nous, hein. Tu le répètes pas, mais en fait, je le paie pour qu'il reste. À ce point-là, quoi. Oui, parce qu'il avait compris, quoi. Il avait compris que bah, quelqu'un comme ça, c'était précieux pour faire avancer ses étudiants. On est obligé de faire face à nos résistances. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Alors après, il raconte aussi que dans les autres centres, quand il y a quelqu'un qui est vachement... on lui demande, est-ce qu'on te paie pour résister? Et voilà, il y a cette notion-là que si les conditions sont trop favorables, si on ne rencontre rien qui vienne nous titiller, notre pratique s'arrête là. On a besoin de l'aiguillon, entre guillemets, de la contrariété pour se dire, il reste du chemin. Et donc, du coup, je dois pratiquer. Et donc, du coup, je dois faire appel à la pratique, aux enseignements, au lojong, etc. Sans circonstances adverses, pas d'éveil. Sans circonstances adverses, pas d'éveil. Rinpoche Rinpoche dit en nous éternisant sur nos blessures, nous attisons notre aversion et l'expérience entière devient négative. Ceci peut être évité si nous nous rappelons le potentiel positif de la situation. Si notre ego n'est pas activé, il n'y a ni dualité, ni discrimination. Moins nous essayons de nous protéger, plus nous sommes invincibles. Personne ne peut nous poursuivre si nous ne nous enfuyons pas. Shogyam Trungpa dit « Sans les autres, nous ne pouvons atteindre l'éveil, et il n'y aurait pas de voie, rien sur quoi travailler. » En fait, il faut bien comprendre que... Pourquoi, par exemple, on dit l'entraînement de l'esprit, le bouddhisme, n'est pas une voie de bien-être? On n'est pas là pour... Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que le chemin ne nous immunise pas, ne nous préserve pas de rencontrer l'adversité. Et vraiment, c'est vrai que parfois, on peut se dire... on peut baigner, en plus, depuis plusieurs années, dans un environnement qui est très favorable, très doux, etc., mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui nous garantit, qui qu'on soit, de rencontrer une situation terrible, voire très, très désagréable. Rien ne nous garantit qu'on ne sera pas en guerre demain. On ne le sait pas, ça. Rien ne... Il y a dernièrement quelqu'un qui est venu nous voir et qui a vécu quelque chose de très difficile. Et cette personne est tombée des nues. Et parfois, ouais, voilà, on rencontre des gens comme ça, qui pratiquent le bouddhisme depuis plusieurs années, et qui s'imaginent que parce qu'on pratique le bouddhisme, parce qu'on est dans le dharma, eh bien, ça nous préserve de rencontrer l'adversité, l'agression, la violence, tout ça, non. C'est pas ça le propos du dharma.
Pourquoi moi ? J'ai déjà entendu ça. Pourquoi moi ?
Pourquoi moi, voilà.
Pourquoi moi ?
Ouais, et vraiment, on est... mais pourquoi, quoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Et puis en plus, souvent, un malheur n'arrive pas tout seul. Et non seulement il y a une tuile qui arrive, mais, et c'est à ce moment-là, quand on sent fragilisé, qu'il y en a une autre qui arrive, et on se dit, mais pourquoi le sort s'acharne sur moi, etc. Mais du point de vue du bouddhisme, vous pouvez voir dans la vie des maîtres... La vie des maîtres, des grands maîtres, des grands réalisés, y compris le Bouddha, à aucun moment leur réalisation spirituelle ne les a immunisés contre le fait de rencontrer des circonstances terribles, voire épouvantables, d'agression, d'adversité très forte, de violence, de maladie, voilà, de souffrance, etc. Le point de vue, l'entraînement de l'esprit vise à nous préparer à rencontrer ça. Alors on se prépare justement, si on peut se préparer dans des conditions favorables, tant mieux. Mais c'est précisément parce qu'il y a des circonstances favorables, c'est le moment de se préparer. C'est là qu'on a les conditions justement pour se préparer avec des petites choses, avec les petites contrariétés du quotidien. C'est maintenant. Parce que quand des circonstances plus graves vont nous arriver, on ne sera plus de s'entraîner, ça sera plutôt le fruit de notre pratique qui nous permettra de faire face avec plus ou moins de sérénité grâce à notre entraînement de l'esprit. Mais voilà, à aucun moment, en fait, il est dit que la voie bouddhiste nous préserve de l'adversité. Non. Elle nous entraîne à faire face à l'adversité de la meilleure manière qui soit. Alors ensuite, le précepte suivant. C'est médite la confusion comme les quatre corps. Ceci est l'insurpassable protection de la vacuité. Ou alors médite la confusion comme les quatre kayas. Les quatre corps. Kaya, c'est corps. Alors ça, c'est un thème que je ne vais pas trop développer parce que c'est un des thèmes qui est les plus difficiles à expliquer dans le bouddhisme, les quatre corps. En fait, ça parle des aspects de l'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose. Quand on parle de l'esprit, il y a un aspect. L'esprit n'est pas quelque chose. Il est vide de caractéristiques. On ne peut pas lui donner une couleur. On ne peut pas lui donner une taille. On ne peut pas lui donner une localisation. On ne peut lui donner aucune caractéristique. On ne l'a jamais vu, l'esprit. Il est vide de caractéristiques. Cet aspect-là, n'est pas quelque chose, on appelle ça le dharmakaya. Bien qu'il n'ait pas quelque chose, il a une capacité de manifestation, il a une clarté qui émane de lui, une vibration, un rayonnement, un dynamisme, et ça on appelle ça le sambhogakaya. Une capacité de manifestation. Et la manifestation, c'est tous les aspects que prenne l'esprit. On appelle ça le nirmanakaya. Bien que n'étant pas quelque chose, il se manifeste sous diverses pensées, d'innombrables pensées. Et derrière pensée, vous pouvez mettre toute la manifestation. Quand je dis univers, quand je dis les êtres, quand je dis couleur, quand je dis sensation, émotion, c'est pensée. Ça naît dans l'esprit, ça émane de l'esprit. Les pensées, on appelle ça le nirmanakaya. Et le quatrième corps, en fait, je ne sais même plus comment il s'appelle, Swabhavikakaya, Swabhavikakaya, c'est le corps qui... c'est pour dire que ces trois aspects dont on a parlé ne sont pas... sont trois aspects d'une même chose. On parle d'une même chose, trois aspects différents. Ils sont indissociables. Et donc c'est ce qu'on appelle le quatrième corps.
La différence entre le quatrième corps et le dharmakaya.
Eh ben le dharmakaya, c'est de dire que l'esprit n'est pas quelque chose, il est vide de caractéristiques. Le swabhavikakaya, c'est pour dire que les trois aspects dont on a parlé, nirmanakaya, sambhogakaya, dharmakaya, sont trois aspects d'une même chose. On ne parle pas d'une chose différente. On parle de trois aspects d'une même chose qui sont indissociables. Voilà. Et c'est pour ça qu'on rajoute ce quatrième corps, pour rappeler ça. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là. Je voudrais juste vous lire une instruction de Rinpoche par rapport à ça qui est plus palpable. Comment toucher ça? Grâce à un outil très moderne qui s'appelle la liseuse.
C'est quelle marque, c'est quel modèle?
Kobo by Fnac. Ah,
tiens.
Hyper pratique. Ouais. On peut mettre les 108 volumes du Saint-Dharma là-dedans.
Laurent, il est...
J'en ai aussi.
C'est vrai que c'est très très pratique.
Tous les enseignements de Rinpoche.
Ouais. « Notre esprit ordinaire crée la confusion en discriminant entre le soi et l'objet, mais il y a une autre manière de se relier au monde. Nous pouvons simplement sentir les objets, sans créer un sujet qui en ferait l'expérience. Si notre ego n'est pas activé, il n'y a ni dualité ni discrimination. Je vous le relis. Nous pouvons simplement sentir les objets, sans créer un sujet qui en ferait l'expérience. On en a un petit peu parlé, enfin on a pu toucher du doigt, on a pu un peu approcher ça quand on a parlé des émotions la dernière fois. Que dans la pratique de Tonglen, dans la pratique de l'entraînement de l'esprit, on ne condamne pas les émotions, on ne méprise pas les émotions. Il s'agit plus de dire, voilà, quelle que soit l'émotion, que ce soit désir, attachement, colère, jalousie, etc., il n'est plus question de dire c'est bien, c'est pas bien. Il est question d'entrer en relation avec cette émotion, et ni bien ni pas bien, on dit, puisse toute cette colère, la colère de tous les êtres, fondre en moi. Si c'est un fort attachement, ni bien ni pas bien, puisse tout l'attachement du monde, tous les gens qui vivent la paranoïa due à l'attachement, l'anxiété due à l'attachement, fondre en moi. Voilà. Et on rentre en contact avec l'émotion. Et en faisant ça, si vous avez pu le faire ce mois-ci, de se rendre compte que ça met une distance entre l'objet de colère ou l'objet de jalousie, l'objet d'attachement, parce qu'on est porté sur... Voilà, on rentre en contact avec l'émotion elle-même, tout simplement, mais sans discriminer c'est bien, c'est pas bien. On est simplement, on sent l'émotion et on se libère de la situation, de l'objet qui provoque l'émotion. Et s'entraîner à faire ça. Là, l'idée, c'est ressentir les objets sans créer un sujet. S'entraîner à ça. Dans des expériences très simples, comme simplement manger un repas, goûter un repas. Quand on goûte un repas, il n'y a pas lieu d'appréhender. Il n'y a pas lieu de faire jouer notre système d'appréciation « j'aime, j'aime pas ». On peut simplement rentrer en contact avec la nourriture en se passant de ses a priori sur ce qu'on va goûter. On goûte simplement, on goûte l'expérience pour ce qu'elle est, sans déclencher l'ego qui sait, qui suppose « j'aime, j'aime pas ». On peut faire l'expérience d'une bouchée de nourriture, de toute cette sensation, sans déclencher ce « je ». Qui coûte être simplement dans l'expérience. Est-ce que... simplement ressentir cette expérience-là pour ce qu'elle est. Et de voir qu'il n'y a pas nécessairement besoin de déclencher un sujet qui fait l'expérience. Avec tout ce système de j'aime, j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon, etc. On goûte l'expérience pour ce qu'elle est. Sans activer le sujet. Voilà, bon.
On peut quand même considérer que c'est bon ou que c'est pas bon.
Oui, mais après. Peut-être après coup. Après coup. Voilà, c'est... goûter, c'est ça. Et on le fait en méditation. Quand on dit goûter l'instant présent, c'est sans attente, sans idée préconçue sur ce qui va se passer. Sans l'idée de bonne méditation, mauvaise méditation, ou créer une bonne expérience de calme, de paix à calme. On goûte l'instant présent pour ce qu'il est, sans essayer de... Voilà, il n'y a pas besoin d'activer un jeu qui contrôle, qui filtre l'expérience. On fait l'expérience pour ce qu'elle est, là, tout de suite, maintenant. Et ça peut nous ouvrir à un autre mode de fonctionnement, à un autre mode de perception dont on n'a pas l'habitude, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne d'habitude, mais de voir qu'il existe. Même une fraction de seconde, ça suffit. Même une minute... Ça suffit pour voir que ça existe. Ce mode de fonctionnement est une autre alternative. Et enfin, l'avant-dernier, les quatre préparations. Les quatre préparations, donc quand on a du mal avec cette instruction-là, la méthode prend le relais. Il y a une méthode plus facile à aborder pour nous préparer à ça. C'est ce qu'on appelle l'accumulation. La purification, l'offrande aux ennemis, l'offrande aux protecteurs. Quand on parle d'accumulation, on parle d'accumulation de mérite. Alors c'est un terme, c'est une traduction qui est un peu qui est un peu discutable, l'accumulation de mérite.
Est-ce qu'on peut dire accumulation de qualité ?
Oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas seulement ça le mérite. Il y a le fait, dans l'idée d'accumulation de mérite, il y a l'idée de générer une sorte de flux d'énergie positive. Par le fait, effectivement, de développer nos qualités, de cultiver nos qualités, mais aussi par le fait d'accomplir des actes positifs, de saisir les occasions d'accomplir des actes positifs. Un acte positif, grosso modo, c'est tout ce qui est tout ce qui nous pousse à agir ou à dire par altruisme, par compassion. Les fruits seront karma positif. Tout ce qui est poussé par l'attitude égocentrique, qui se traduit par les poisons de l'esprit, tout ce qui va être toutes nos actions poussées par la colère, l'aversion, l'attachement, l'avidité, auront des conséquences négatives. Donc s'entraîner, voilà, à cultiver des actes positifs, à développer nos qualités. Voilà, c'est ce qu'on appelle accumuler du mérite. Alors, c'est pas genre un tas de graines, voilà, un tas de bons points qu'on cumule, ce qui serait stocké quelque part. Quand on parle d'accumulation de mérite, c'est plus pour parler d'un flux. Alors moi, j'aime bien l'idée d'un... Par exemple, au départ, c'est très fragile. C'est un filet d'eau qui sort du robinet. Mais plus on va développer ça, plus ce filet d'eau va se transformer en torrent, puis en rivière, puis en fleuve. Et l'idée, c'est que à un moment donné, si ce flux d'énergie positive est très important, il n'y a rien qui constituera un obstacle majeur. Même si on rencontre des circonstances adverses, ce flux d'énergie positive, ben, en fait, voilà, va nous permettre de traverser sans problème. Même s'il y a une émotion très négative, voilà, un fort facteur perturbateur qui s'élève dans notre esprit, tout ce qu'on aura généré de puissant, d'accumulation de mérite, fait que bah, on va très vite, ça va très vite être négligeable. Et donc on va pouvoir le dépasser facilement. C'est ça, cette idée d'accumulation.
Pourtant, on voit parfois justement des gens qui ont pu avoir une vie où on pourrait dire qu'il y a beaucoup de mérite, ils ont beaucoup fait pour les autres, ils ont on pourrait dire effectivement une vie de bonté, mais qui peuvent s'écrouler sur une petite chose finalement, et ça ne donne pas cette impression forcément de stabilité, on n'a pas l'impression que ça joue justement, mais que ça peut. On peut garder une grande fragilité alors qu'on ouais. a justement toute sa vie été un exemple de don de soi. Est-ce
que ça... bah en fait, avant un certain stade d'avancement spirituel, il est encore possible de chuter. Et que même l'accumulation de mérite n'est pas une garantie. Mais c'est une aide très qu'il ne faut absolument pas négliger. Et en plus, on dit que karmiquement, les fruits qu'on récolte dans cette vie viennent de ce qu'on a accompli dans la vie précédente. Donc, quelque part, tout ce qu'on plante comme bonne graine dans cette vie, on en verra les fruits que dans la vie future. Le karma, voilà, ça prend du temps. Alors, effectivement, il y a un karma immédiat, il y a des fruits qu'on voit tout de suite, mais la plupart, c'est des fruits, voilà, les circonstances positives dont on bénéficie dans cette vie, on dit que ça vient de ce qu'on a accumulé dans la vie précédente.
Est-ce que ça peut venir aussi du fait qu'il y a tous ces mérites, mais l'entraînement de l'esprit doit être là aussi en parallèle ?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire c'est une partie de l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire tout en développant la sagesse c'est ça qui va déraciner la confusion, donc c'est la seule manière de se libérer vraiment du samsara et de réaliser l'éveil, c'est de la sagesse. Mais n'empêche que pour développer la sagesse, quelque part, on met toutes les cartes de notre côté en développant ce qu'on appelle le mérite. C'est ce qui va donner de la puissance et des circonstances favorables pour notre chemin spirituel. Donc on a vraiment besoin des deux. Et il ne faut surtout pas négliger, même quand on est... les maîtres insistent, que jusqu'au bout, même quand on est avancé spirituellement, ne jamais négliger la moindre petite graine dans les grandes choses comme dans les petites choses. Voilà, ne pas négliger les petites occasions de générer des qualités, des actions positives, etc. Alors il y a des astuces aussi, et ça, ça fait sourire quand on parle de ça, mais Rinpoche insiste beaucoup, c'est que se réjouir des actions positives accomplies par les autres, se réjouir des qualités des autres, nous fait bénéficier des mêmes mérites. Autant on bénéficie karmiquement, voilà, c'est assez mathématique, si on se réjouit profondément, sincèrement, hein, bien sûr, que ce soit sincère, des actions positives accomplies par les autres, par les maîtres, par les autres ordinaires, etc., on bénéficiera du même mérite que si on avait nous-mêmes accompli ces actions. Alors il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, Rinpoche, voilà, il nous dit on pourrait même être des sortes d'escrocs, mais dans le bon sens du terme, d'escrocs des magouilleurs de mérite, quoi. Si sincèrement on se réjouit de tout ce qui est positif, on en récolte les mérites. Donc à nous d'en faire bon usage. Parce qu'on peut être très malin avec ça.
C'est marrant que vous disiez ça parce que quand vous répondiez, il y avait quelque chose qui me gênait quand vous parliez de l'accumulation de mérite dans une vie. Qui va se ressentir plus dans une autre sur le résultat. Et j'arrive pas à imaginer qu'un non-moi puisse sur deux vies comme ça, ou plusieurs, qu'il y a un lien, quoi, identitaire. A priori, il n'y en a pas, justement. Et donc, quand vous dites que se réjouir de l'accumulation de mérite d'autrui, là, j'ai du mal à le dire, mais je perçois, ça répond un peu à cette confusion que j'ai. Je ne peux pas imaginer un moi qui se réincarne, mais les qualités qu'on développe, oui. Alors, c'est pas très clair, je sais, parce que c'est pas facile à exprimer. Mais du coup, quand vous dites que se réjouir des qualités, réalisées par les autres, j'ai l'impression d'avoir un élément de réponse à cette confusion là que je perçois. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un lien, quoi?
Alors du coup j'ai pas assez.
Bah oui. Du coup je suis pas sûr d'avoir tout. Mais
moi je peux me permettre de prolonger ta pensée.
Bah vas-y, oui, avec plaisir.
Moi, tout le monde le sait ici, pour moi j'ai des gros doutes sur le fait qu'on vit plusieurs vies. Néanmoins, mon état d'esprit, comme je considère que j'ai une vie extraordinaire, extrêmement bénéfique et qui m'apporte beaucoup de bonnes choses, ben, je remercie, s'il a existé, celui qui a accumulé des mérites peut-être d'une vie précédente, que je ne connais pas, qui pour moi est un étranger. Et je le remercie. Je pense que c'est un peu dans le sens de ce que tu ressens, non?
Quand on a réalisé le non-soi, ces questions n'ont plus cours. Mais nous, il faut comprendre que le Bouddha, en fait, il s'adresse à des fous. Imaginez que vous êtes un psychiatre et que vous êtes en face d'un fou qui vous dit que, voilà, vous êtes en train de lui parler, qui vous dit qu'il y a des rats partout dans cette pièce. Vous pouvez lui dire, mais non, il n'y a pas de rats. Mais le fou, lui, il voit des rats. Donc ça l'aide pas que quelqu'un lui dise, non, il n'y a pas de rats. On ne fait pas avancer le schmilblick. Pour l'aider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en communication. Ok, tu vois des rats, etc. Voilà, si tu vois des rats, bon, ok, mais on peut justement traiter cette situation différemment et voir comment on peut gérer. Mais ne pas nier que la personne en face, elle voit des rats. Le Bouddha, voilà, dans Lojong, on va parler de la bodhicitta ultime. Il y a un enseignement plus ultime, etc. Le non-soi, la vacuité, la bodhicitta ultime. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas ces instructions, pas de problème. On va parler un langage que nous, on connaît très bien, que vous connaissez très bien, c'est le langage duel. Vous croyez en un sujet et un objet, et bien on part de là. Et c'est très très bien foutu, la méthode. C'est... on va parler, on se conçoit dans notre perception relative, on se conçoit comme moi et on voit les autres. Et bien, dans cette conception, on va utiliser un concept très puissant, c'est « puissent tous les autres être heureux ?» Puisqu'on voit les autres, puisqu'on perçoit les autres en tant que séparés de nous, et bien, pour nous amener à la réalisation de la sagesse, à la réalisation de la vacuité, de tous les phénomènes, etc., eh bien, on va utiliser cette notion de bodhisattva. Je veux que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Et je vais accumuler du mérite. Je suis un moi, donc il y a moyen de... Voilà, on parle, voilà, le Bouddha, il utilise un langage qu'on connaît. Si cette conception d'un moi séparé du reste commence à s'effriter, on va voir que ces questions ont de moins en moins cours. Mais tant qu'on n'a pas réalisé profondément la vérité ultime, alors on ne néglige pas l'accumulation de mérite. Quand on est très avancé sur le chemin, on voit que ça change de signification. Mais tant qu'on croit fermement en l'existence intrinsèque d'un soi séparé du reste, c'est là que la méthode est importante. Et d'où l'idée de cette conception de vie antérieure, vie truc. Parce que du point de vue ultime, tout ça c'est des concepts. Mais des concepts qui ne traduisent pas une vérité ultime. L'idée de vie antérieure ou vie... Futur. Ce sont des concepts utilisés par le Bouddha. Mais qui ne s'adressent qu'à quelqu'un qui croit en un soi. Et tant qu'il croit en soi, qu'est-ce qui se perpétue au fond ? Bah c'est cette croyance, en fait. C'est ça, en fait, qui se perpétue dans le futur. Et on parle de concept de vie supérieure, c'est l'idée d'un soi séparé du reste, l'idée de l'ego. C'est ça qui se perpétue à chaque instant. C'est même pas, en fait, quand on parle de vie après vie, mais en fait, c'est à chaque instant de conscience. C'est pour ça qu'on parle de renaissance. Mais renaissance de quoi ? Bah, renaissance de ce bug. Si plus on va avancer en chemin, plus cette méthode va nous... va faire que cette conception, on voit qu'elle n'est pas solide, elle n'est pas si réelle que ça. Et donc, du coup, les questions vont s'évaporer. Et la méthode, notre façon de pratiquer, va changer. Mais tant qu'on n'a pas la réalisation, on a besoin de la méthode. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils insistent, même si on est très avancé à chemin, même si on commence à avoir une compréhension de la vacuité des phénomènes, ne jamais négliger l'accumulation de mérite. Toujours positive, générer de la vertu, générer des actions positives, générer de la compassion vis-à-vis des autres, tout le temps. Et même, hein, voilà, c'est les grands maîtres qui disent ça, c'est les Patrulli Rinpoche, c'est les Shantideva, des gens qui sont très très avancés, mais qui disent, voilà, à aucun moment on s'arrête. C'est l'enseignement de Milarepa, l'enseignement ultime de Milarepa à Gampopa, c'est, voilà, ils vont séparer le disciple et le maître, qui sont comme père et fils, sont amenés à se séparer. Voilà, c'est la dernière fois qu'il se voit, mais il n'arrête pas à préparer son disciple comme Popa, etc. Et puis il dit, wesh, ah, mais j'ai quand même une instruction ultime à te donner, etc. Non, je pense que t'es pas prêt pour ça, etc. C'est pas grave, laisse tomber. Alors, quand Popa le supplie, quoi, de lui donner, mais c'est quoi cette instruction, etc. Non, c'est pas vrai. Puis bon, bah, il se sépare, et puis t'es... Puis finalement... Milarepa revient, ouais, si, je vais quand même te la dire, etc. Parce que si je la donne pas à toi, à qui je la donnerai? Et puis il se décalote et il lui montre ses fesses. Et il voit, Gampopa voit sur les fesses de Mila toutes ces callosités du fait de son entraînement, de sa pratique. Elles sont devenues dures comme de la pierre, quoi. Et instruction, voilà, c'est jusqu'au bout, n'abandonne jamais la pratique. N'abandonne jamais la pratique. Et donc, Gampopa en larmes devant les fesses de Milarepa, enfin, j'imagine le tableau, quoi.
C'est de l'humour tibétain.
Ouais, c'est très tibétain comme humour. Alors ensuite, je suis à la bourre. Donc ensuite, la purification. La purification, donc ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est que du point de vue de la voix, aucun acte négatif, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la gravité, ne peut être, n'est pas à même d'être purifié. Et on considère que le regret suffit. Un regret sincère, un regret complet, un regret profond, suffit à nous purifier. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est... on considère que du point de vue de la nature de notre esprit, notre nature, notre essence, l'essence de ce que nous sommes, n'a jamais été souillée. ne sera jamais souillé. Il n'y a aucune émotion, aucune pensée, aucune chose qu'on ait pu accomplir qui puisse souiller cette nature profonde, ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Elle est pure par essence. Et que de ce point de vue-là, il n'y a rien qui puisse ne pas être purifié. Si on en fait le regret sincère, même si on a compliqué quelque chose d'inacceptable, on considère qu'il n'y a pas lieu de porter un fardeau. Ça n'est inscrit nulle part. Celui qui regrette profondément, c'est celui qui est prêt à devenir quelqu'un d'autre. Dans le regret, donc il y a le regret de ce qui a été accompli. Un regret complet, c'est non seulement le regret de ce qui a été accompli, la résolution de ne pas réitérer, le fait de prendre, d'avoir confiance en notre nature de Bouddha, ce qu'on appelle prendre refuge, et ensuite on se donne les moyens pour ne pas réitérer, ce qu'on appelle la vigilance. On appelle les quatre forces du regret. Si y a ça, c'est qu'on est prêt à devenir quelqu'un d'autre. Si je regrette profondément, c'est que plus jamais ça. Je ne veux plus être cette personne qui a accompli cela. Si je le regrette profondément, je deviens une nouvelle personne. Et de ce point de vue-là, on se débarrasse du fardeau. Ça suffit. Un regret sincère suffit à se purifier. Et ça, c'est une notion qui est très, très importante et on nous encourage à la développer. La culpabilité, est quelque chose qui est très étranger aux Tibétains. La culpabilité, pour un Tibétain, mais ça pourrait traduire une forme d'orgueil. Si on est en chemin, et malgré qu'on soit en chemin, on n'accepte pas de se tromper, d'avoir un comportement erroné. Chez les Tibétains, on considère que tant qu'on n'a pas réalisé l'éveil, non seulement on s'est gouré, on s'est trompé, mais on va encore se tromper. Donc il n'y a pas lieu de culpabiliser, de traîner ça comme un fardeau, etc. Parce que la culpabilité, ça nous paralyse, ça nous empêche d'aller de l'avant. Alors que le regret, c'est différent. C'est je regrette. Je regrette ce que j'ai fait, parce que je suis encore dans le samsara, je suis encore en chemin, donc je me plante. Mais je regrette et je ne veux plus. Plus jamais je ne retomberai là-dedans. Je considère que ça suffit. Juste pour la petite anecdote, Milarepa, justement, le premier maître qu'il a rencontré l'a introduit à sa nature de Bouddha en lui disant « Mais moi, avec ma méthode, Milarepa, vous savez, il a commencé sa vie en tant qu'assassin. Et lui, il croyait au karma. Et vraiment, il avait la trouille de mourir avec ce karma-là. Il s'est dit « Si je meurs comme ça, où est-ce que je vais renaître ?» Et donc, il a vraiment cette angoisse profonde qui l'a poussé à rencontrer un maître, qui l'a poussé à trouver le dharma pour se purifier de ça. Et le premier maître qu'il a rencontré, les instructions qu'il lui a données étaient relatives à la nature de l'esprit. En gros, avec ma méthode, mais pas de problème, tu médites le matin, t'es éveillé le soir. Puisque, si tu comprends la nature de l'esprit, tu verras que tu peux te désidentifier justement de cette entité d'assassin. Tu peux t'en détacher. Elle n'est pas inscrite quelque part. Reconnais la nature de ton esprit et vois que c'est un fardeau inutile. Mais il n'a pas compris cette instruction-là. Il se prenait pour un assassin. Justement, il était agrippé à cette... attaché, identifié à cette image de lui qu'il avait d'un assassin. Et ensuite, il a rencontré Marpa. Et Marpa, il a bien compris que ce que voulait Milarepa, c'était de purifier. Mais purifier dans le sens, il voulait faire pénitence. Et il l'a fait purifier, Il l'a emmené dans des épreuves, mais quand on lit la vie de Milarepa, on se dit, mais est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce qu'il a vraiment accompli, subi toutes ces choses-là? Et effectivement, après Milarepa, ça a été éveil fulgurant. Mais dans l'éveil, il y a aussi la compréhension qu'il n'y avait pas besoin de passer par tout ça. Il est passé par tout ça pour réaliser qu'il n'avait pas besoin de passer par tout ça. Et il y a un peu de ça, c'est parfois, on est attaché à notre fardeau. Et donc, il y avait un lama qui disait une boutade comme ça, qui me disait « Ne soyons pas aussi stupides que Milarepa ». Bon, c'est une boutade, quoi. Mais en gros, si on comprend la nature de l'esprit, si on a confiance en ça, on peut laisser notre fardeau, ne pas se retourner et se dire « Ça y est, je suis quelqu'un de nouveau, je regrette, il n'y a pas besoin de s'appesantir sur le passé n'existe plus, de porter un fardeau ». Et si on a ça, c'est ça la purification, c'est ça qu'on appelle la purification. Si on a vraiment cette confiance-là, ça suffit. il y a des associations d'ex-prisonniers. Voilà, des gens qui sortent de milieu de la détention, alors que du point de vue de la société, les compteurs sont remis à zéro, quoi. Effectivement, il y a eu un crime qui a été commis, quelque chose d'illégal, etc. Mais on considère que j'ai fait ma peine. Voilà, du point de vue de la société, les compteurs sont remis à zéro. Mais pourtant, il y a des associations d'ex-prisonniers qui se font parce que les gens qui sortent de là continuent à se considérer comme des prisonniers. Il y a la société, bien sûr, qui leur envoie, mais eux-mêmes ne s'autorisent pas à se considérer que l'ardoise est effacée. Et du coup, ils rencontrent des prisonniers qui sont passés par là, qui leur apprennent justement à considérer que ça y est, on remet les compteurs à zéro. Et nous, on doit le faire. C'est ça qu'on appelle la purification. Considérer que si on regrette, s'autoriser à se dire ça y est, les compteurs se remis à zéro, j'ai pas besoin de m'identifier à cette personne qui a accompli ça dans le passé parce que c'est terminé. Voilà, très important, la purification. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que les deux points suivants, on en parlera, c'est assez rapide la prochaine fois. Et le dernier précepte de ce troisième point, c'est relie tout ce que tu rencontres à la méditation. Et souvent, il est ajouté une phrase là-dessus, fais-le maintenant. On insiste sur l'importance de s'entraîner maintenant que les conditions sont favorables, et maintenant avec tout ce qui nous passe sous la main. Tonglen, c'est circonstances favorables, j'offre. Circonstances défavorables, je prends. Et j'ai le réflexe dans la moindre petite chose du quotidien, à le faire tout de suite. C'est comme ça que l'automatisme va créer. Si on remet à plus tard, du coup, c'est ça qui s'inscrit. C'est que l'entraînement de l'esprit, c'est plus tard. Donc, tout doit être pratiqué dès maintenant.
Donc, pas besoin d'être sur le coussin.
Non, pas besoin. Si on a compris la logique, il n'y a plus besoin d'être sur le coussin. Et c'est très important. Et puis j'ai rencontré aussi une personne qui me disait, quand je suis bien, penser la souffrance des êtres et puis me dire que telle personne qui a des problèmes de comportement, je suis en train de les prendre, et puis du coup j'imagine que cette personne est libérée, et puis moi je suis en train de récolter ces troubles du comportement, etc. C'est pas ça.
Il faut purifier.
Je crois que c'est quand on pratique Tonglen. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on se sent bien, l'idée, c'est pas de faire Tonglen pour se sentir moins bien. C'est quand on se sent bien, la pratique de Tonglen consiste à imaginer que tous les êtres se sentent bien. Ça, c'est très important. Quand on se sent bien, il ne s'agit pas de travailler sur la souffrance, il s'agit de travailler sur ce qui se présente, c'est-à-dire le fait de se sentir bien. À un bon repas, je me sens bien, et j'imagine qu'il n'y a pas que moi qui se sens bien, il y a tous mes proches que j'aime, tous les gens, et puis ensuite on l'étend à tous les êtres qui se sentent bien. Là, on ne travaille pas sur la souffrance, on travaille sur l'attachement à se sentir bien. Donc il n'y a pas besoin de se créer de la souffrance là où il n'y en a pas. C'est si je me sens bien, Tonglen consiste à partager ce bien-être. Quand je ne me sens pas bien, l'idée c'est pas de s'en remettre une couche en me disant je fais Tonglen pour aller encore moins bien ou pour récolter des problèmes que je n'ai pas. C'est on travaille sur quelque chose qui est déjà là. C'est je ne me sens pas bien, je lui donne une autre perspective. Parce que je ne me sens pas bien, j'imagine que tant qu'à faire, je prends tout le mal-être des êtres dans ce qui est présent et j'en débarrasse tous les êtres. Je fais une pierre 2 coups, 3 coups, 5 coups, 1000 coups. C'est tant qu'à se sentir pas bien, du coup je prends et je transforme. C'est ça la transformation. L'idée c'est pas je me prépare à subir des souffrances futures où j'appréhende que si je prends cette souffrance là, cette personne qui est aveugle ou qui est handicapé, je suis en train de prendre son handicap. Effectivement, elle ne sera plus handicapée, mais moi, je vais être handicapé. Non, parce que là, on est dans l'appréhension. Et ce n'est pas bon, justement. On n'est pas dans le travail sur l'aversion. Non, c'est parce que je me sens bien là, parce qu'il y a une irritation ou parce qu'il y a une maladie, je travaille sur ce qui est là, pas dans la prévision d'une souffrance future. Voilà. Mais il faut le faire tout le temps. Et dans même les petits inconforts, même les petits plaisirs, l'idée, c'est si on ne le fait pas là, il n'y a aucune raison. On le fera dans des situations plus délicates. Il faut que ça soit un automatisme. Donc voilà, ça le dernier précepte, c'est relie tout ce que tu rencontres à la méditation maintenant.
Au fond, ça rejoint à ce qu'on dit dans la prise de refuge, le bien de tous les êtres. Enfin, dans la dédicace.
Oui, c'est ça, pour le bien de tous les êtres. Merci pour votre patience. On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci. Merci.